Bonsoir, comment allez-vous? Cet après-midi, j'étais comme tous les Parisiens. Je cherchais l'ombre, l'ombre pour me garer, le trottoir à l'ombre pour marcher. Et au bistrot en bas, je me suis jetée comme la misère sur le monde sur la seule table disponible à l'ombre. J'hallucine. Si on m'avait dit il y a une semaine que j'allais avoir trop chaud, c'est comme si on m'avait dit que j'allais avoir trop de fric. J'ai tellement couru après le moindre rayon de soleil, je me suis tellement collée au radiateur, j'ai tellement calfeutré portes et fenêtres pour avoir un peu moins froid. Tout d'un coup, hop, ce qui a tant manqué arrive en trop grande quantité. C'est un petit peu comme la faim. Autrefois, la grande affaire en Occident, je parle, c'était de manger. Et maintenant, notre grande affaire, c'est d'arriver à maigrir. C'est dingue. Imaginez, comme ça, soudain, un surplus d'argent au point d'être trop. Par exemple, vous hésitez entre deux boulots, puis vous vous dites « bah, je vais prendre celui-là, c'est le moins payé ». Ou bien « va dans telle boutique, c'est plus cher ». Je voudrais bien installer une machine pour siphonner mon compte, une espèce de climatiseur financier. Ou tu sais pas, mon pervers de patron va encore arriver à m'augmenter. Et oui, voilà. Je vous sais, je vous dites que je suis complètement folle et que je suis indécente. Et pourtant, tous les ans, ce que nous avons tant désiré, la chaleur, nous gêne soudain. Et ça arrive sans crier gare. Enfin, sans crier gare.
Bonsoir, je m'appelle Meg, j'ai 15 ans et je voudrais savoir pourquoi le passage de printemps était fixé cette année-là à 20h16 et à quoi ceci correspond. Merci beaucoup, au revoir.
Bonsoir Meg, a-t-elle raison Pierre-Léna ?
C'est une très jolie question Meg, je ne sais pas de quelle année tu parles quand tu dis 20h16, mais ta question mérite que l'on parle de ce printemps que tout le monde connaît. D'abord, tu sais sans doute que la Terre décrit une courbe, presque un cercle, que l'on appelle une ellipse, autour du Soleil, donc dans un plan. Mais tu sais aussi que l'axe de rotation de la Terre, la rotation diurne, celle qui dure 24 heures, est incliné par rapport à ce plan. Il n'est pas perpendiculaire au plan, cet axe, il n'est pas non plus dans le plan, il fait un angle avec le plan. Et chaque planète a un angle particulier. La planète Vénus, la planète Mars, la planète Uranus ont des angles différents. L'angle que fait l'axe de rotation avec le plan de l'orbite de la planète est un témoin de l'histoire de la formation de la planète. C'est cet angle qui est responsable de l'inégalité des saisons. Tu le sais bien, quand nous sommes dans l'hémisphère nord et quand l'axe de la Terre pointe plutôt dans la direction du Soleil, nous recevons le Soleil plus verticalement et il fait chaud, c'est l'été. L'inverse se produisant en hiver, mais l'inverse se produisant aussi dans l'hémisphère sud. Cet axe a une propriété très curieuse, c'est qu'il occupe dans l'espace, lorsque la Terre parcourt son orbite autour du Soleil, toujours la même direction. Et nous connaissons bien cette direction, c'est celle de l'étoile polaire. En fait, la Terre se comporte comme une toupie. Mais me diras-tu, lorsqu'on lance une toupie, on voit bien que l'axe de la toupie tourne, décrit un cône. Eh bien, c'est aussi le cas de l'axe de la Terre. Simplement, il met 26 000 ans à décrire ce cône. C'est très long, donc pendant une année, pendant un siècle, l'axe est toujours dirigé dans la même direction, la polaire. Alors, revenons à ta question. Qu'est-ce que c'est que le printemps ? Le printemps que les scientifiques appellent aussi l'équinoxe. L'équinoxe se produit lorsque l'axe de la Terre, qui, rappelons-le, est toujours orienté vers l'étoile polaire, est tel que la Terre occupe sur son orbite une position où la durée du jour sera exactement égale à la durée de la nuit. Équinoxe, nuit égale au jour. Donc, il existe, lorsque la Terre parcourt son orbite, un seul moment, une seule heure, une seule minute, une seule seconde même, où l'axe occupe exactement cette orientation. Et comme le mouvement de la Terre est légèrement irrégulier, que la trajectoire qu'elle décrit n'est pas exactement un cercle, eh bien, cet instant se produit tantôt le 20, tantôt le 21 mars, et même en 2044, il se produira le 19 mars.
C'est noté, hein, 2044, le 19 mars. Pierre Léna est astrophysicien. Vous savez, il est à l'origine avec Georges Charpak et Yves Quéré du programme éducatif que vous connaissez certainement, La main à la pâte. Je vous cite un des derniers livres de Pierre Léna, une histoire de flou édité chez Le Pommier, Miroir, Trou Noir et Autre Monde. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, vous avez demandé si les animaux ont la notion du temps, pourquoi on a envoyé Napoléon à Sainte-Hélène et pourquoi les vacances sont à la fin de l'année. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Vous, les enfants, vous nous posez des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour vous répondre.
Bonjour, je m'appelle Alain. J'aimerais savoir pourquoi on appelle certains peintres les impressionnistes. Au revoir.
Alain demande pourquoi on appelle certains peintres les impressionnistes. Françoise Barbogal, historienne de l'art, créatrice de Coretta, les impressionnistes, certains peintres, dit-il. Lesquels, on a envie de rajouter?
Lesquels? Alors, Alain, tu penses à Monet, à Renoir, à Pissarro, à Caillebotte, à Degas, bien sûr, et à quelques autres, Sisley. Eh bien, c'est très simple, le mot impressionniste, il a été inventé à partir du mot impression. Parce que, en 1874, Monet a exposé un tableau qu'il avait intitulé « Impression soleil levant », qu'il avait peint 2 ans plus tôt. Aujourd'hui, ce tableau est conservé au musée Marmottan à Paris. Et le tableau a beaucoup surpris les critiques, et l'un d'eux qui a trouvé que c'était très mal peint, que ça n'était pas dessiné, que c'était une espèce de fouillis de couleurs, que c'était pas fini, que c'était pas sérieux, que c'était une sorte vraiment de brouillon, a dit, mais d'une façon moqueuse, impression, ah bah sûrement, il y en a de l'impression là-dedans, parce que moi je suis drôlement impressionné. Alors le mot est resté après, et on s'est dit on va les appeler les impressionnistes, mais c'était vraiment, vraiment une moquerie au départ. Et comme ces jeunes peintres n'avaient absolument aucune sorte de théorie, ils se sont dit pourquoi pas, on va s'appeler les impressionnistes. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand il a appelé son tableau de cette façon-là, Monet faisait quelque chose de très très sérieux, parce que on pouvait utiliser le terme impression comme on l'utilise aujourd'hui. Ah, j'ai l'impression que telle et telle chose va arriver, ou j'ai l'impression qu'il n'est pas content, ou j'ai l'impression qu'elle est déjà partie, etc. Bon, mais on disait impression pour dire esquisse.
Ah !
Ce que Monet voulait faire, c'était peindre ce qu'on voit en une seconde. Tu vois, quand on découvre quelque chose, que ça frappe, et on sait que ça ne se reproduira jamais. Alors, évidemment, il y a quelques coups de pinceau, on peut pas aller dans les détails, on va pas aller peindre les feuilles des arbres une par une. Ce sont des tâches, comme ça. Ce qu'on a vu, sans comprendre, sans rien savoir, juste avant que ça ne disparaisse. C'était ça l'impression de Monet.
Donc c'est un côté fugitif.
Totalement fugitif.
Alors qu'il y a des œuvres où là, on a l'impression que ce qu'il y a de précieux, c'est le détail. On peut passer des heures à observer, 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 on verra toujours quelque chose de nouveau. Là, c'est exactement le contraire.
C'est exactement le contraire. Les impressionnistes sont des gens qui ont travaillé dans les années 1870 jusque vers 1900 et un peu plus tard, et qui montraient le moment qui passe, qui montraient quelque chose qu'on ne peut pas saisir, quelque chose qui est tellement rapide qu'on ne peut pas le définir.
Si vous avez aimé Françoise Barbogal, vous aimerez ce livre « Comment regarder un tableau, apprendre à en croire ses yeux » aux éditions du Chêne.
Certains ont dit il est fou, ont vu danser dans les rangs et les rues, ont cru dur comme fer que mon cœur était mou, que je chevauchais le fou. Certains y ont vu un refus, ont juré que j'attrapais le ciel à main nue, que j'en faisais des barricades dans la rue.
De la playlist de France Inter, la chanson « Regarde » chantée par le Toulousain Barbagallo.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous avez déjà entendu dans les petits bateaux Jocelyne Porcher.
Bonjour Noël Bréham, je m'appelle Astrid, j'ai 9 ans et j'aimerais savoir si les animaux ont la notion du temps. J'espère que vous répondrez bientôt à ma question. Au revoir.
Bonsoir Astrid, il faut toujours espérer, tu vois. Alors, tu aimerais savoir si les animaux ont la notion du temps. Jocelyne Porcher, vous êtes sociologue et directrice de recherche à l'INRAE. C'est difficile de savoir ça.
Eh bien oui, c'est très compliqué. Et je vais répondre en parlant des animaux domestiques, des chiens, des vaches, des cochons, qui sont ceux avec qui je travaille. Parce que lorsqu'on vit et qu'on travaille avec des animaux, oui, on s'aperçoit qu'ils ont la notion du temps et en fait, ils n'ont pas besoin de regarder leur montre pour savoir qu'il est l'heure de rentrer à l'étable, par exemple s'ils sont prêts ou si c'est l'heure de manger. Il y a beaucoup de professionnels qui travaillent avec les animaux qui témoignent de ça, que les animaux, par exemple, de cirque, ils savent le temps d'un numéro, même si ce n'est pas l'heure. Donc, ils savent quand est-ce qu'ils vont arriver, ou une vache, par exemple, elle sait très bien le temps que dure la traite.
Si la traite, c'est à 18h, à 18h, elle est au taquet.
Voilà, exactement. Alors qu'elle n'a pas de montre. Et le fait que les animaux aient une connaissance comme, du temps comme ça, plutôt intuitive, plutôt que par l'horloge, c'est important parce que ça rend la journée de travail avec eux beaucoup plus vivante, en fait, et moins rythmée. C'est beaucoup plus fluide, quoi. Voilà. On a l'impression que les animaux, ils sont cadencés, quoi. Et il y a autre chose que disent les éleveurs à propos de cette notion du temps, c'est que les animaux ont beaucoup d'intuition. Alors l'intuition, bon, c'est assez difficile à définir, mais on pourrait dire, et c'est ce qu'ils disent, c'est que c'est une espèce de sixième sens pour les animaux. C'est une idée des choses, voilà, qui passe pas par la pensée, par les mots, mais par les sentiments ou par des images.
C'est un savoir quand même.
Ben voilà. Et par exemple, on le sait que les vaches sont à la barrière au pré bien avant, juste un peu avant que l'éleveur arrive, ou les chats par exemple qui sont devant la porte. Juste au moment où on arrive, alors on se dit tiens, il était là. Non, en fait, il n'était pas là. Il savait que vous arriviez, il est arrivé juste en même temps que vous.
Même si vous n'arrivez pas tous les jours à la même heure.
Exactement. Alors il y a des esprits un peu pragmatiques qui disent que bon, c'est du conditionnement par exemple pour la vache. Que c'est parce que elle a besoin d'être traite, qu'elle a mal aux mamelles et que donc voilà, elle a envie de rentrer, ou que le chat il a faim, etc. Mais en fait, on a bien observé que par exemple les vaches elles sont tout aussi présentes à la porte du pré en fin de lactation qu'en début de lactation.
C'est pas un phénomène physique.
Voilà, non. C'est pas un phénomène physique, c'est simplement qu'elles ont la notion de l'heure qu'il est, quoi. Cette question, comme beaucoup d'autres, hein, c'est des questions qui n'ont pas été étudiées. À propos des animaux de ferme, parce que jusqu'à présent, voilà, on s'intéressait aux chiens, on fait faire des tas d'expérimentations aux chiens, aux chats, et on n'a pas cherché à savoir grand-chose des animaux de ferme.
Est-ce que vous pensez qu'un animal peut s'ennuyer ? Par exemple, on dit qu'un cheval tout seul dans un pré s'ennuie.
Oui, tous les animaux qui sont des animaux sociaux, effectivement, ils s'ennuient, puisque les chevaux, ils ne vivent pas seuls, comme une vache toute seule s'ennuierait ou...
À moins qu'elle ait
un autre animal avec elle. S'il y a un âne, par exemple. Mais les animaux de ferme, la plupart, même quasiment tous, c'est des animaux sociaux qui vivent en groupe. C'est pour ça qu'on a eu des facilités à vivre ensemble. C'est parce que, du coup, on a construit une communauté élargie avec eux, quoi.
On n'aurait jamais pu élever des animaux solitaires.
les animaux solitaires, ils ne vont pas chercher à vivre avec nous. C'est parce que la domestication, c'est pas nous qui avons été chercher les animaux en disant allez hop, tu vas vivre avec nous toi. Non, c'est des espèces animales qui se sont aperçues que c'était pas plus mal de vivre avec des humains que sans eux. Alors les chiens, c'est vrai, on donne des tas de raisons, mais par exemple les brebis, on devine pourquoi c'est plus intéressant de vivre avec nous. C'est beaucoup plus tranquille que d'être sans arrêt en train d'avoir peur du loup, quoi. C'est vrai aussi pour les chevaux. Les espèces animales, elles ont un intérêt à être domestiquées. Et nous, on a intérêt à vivre avec elles. C'est un échange.
C'est un échange. La domestication, si on peut dire ça comme ça, est un échange et pas une exploitation malhonnête.
Non. D'ailleurs, il y a pas beaucoup d'espèces qui sont domestiquées, en vérité, par rapport à toutes les espèces animales qui existent. Il y a des espèces qui ne veulent pas vivre avec nous. Par exemple, on a fait des essais de domestication des lièvres. Les lièvres, ils ne veulent pas.
En admettant qu'ils soient bien traités, c'est un accord.
Voilà, c'est un don. Enfin, moi, c'est ce que je dis, c'est un don et contre-don.
Jocelyne Porcher, le dernier livre de Jocelyne Porcher, est édité, j'adore le nom de cette édition, Le bord de l'eau, et il s'appelle Cause animale, cause du capital. Alors, à propos du vivre ensemble, du vivre bien ensemble, d'avoir besoin des autres et de souffrir de solitude, voilà une question tout à fait d'actualité, puisque nous célébrons cette année le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte.
Bonjour, je m'appelle Adrien. Ma question concerne Sainte-Hélène. C'est où et pourquoi on a envoyé Napoléon là-bas ? Merci.
Bonsoir Adrien, Jean-François Coulon-Desarts, vous avez écrit « Napoléon, les derniers témoins racontent », c'était aux éditions du Rocher. Vous avez écrit entre guillemets ce livre avec David Chantran, c'est en fait un livre de témoignages.
Absolument.
De ceux qui ont accompagné Napoléon à Sainte-Hélène. Vous êtes écrivain, journaliste, réalisateur de documentaires. Alors Adrien demande pourquoi on a envoyé Napoléon à Sainte-Hélène. Et moi j'ai envie de rajouter qui est « on ».
Eh bien, on, c'est les Anglais, mais on va peut-être y revenir un petit peu plus tard. Écoute Adrien, Napoléon devait avoir à peu près ton âge, quand j'entends ta voix, tu devais avoir 12-13 ans, et sur son cahier d'écolier, il écrivait « Sainte-Hélène, petite île ». Eh bien, il s'était pas trompé. Ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est qu'il allait finir ses jours là-bas. Alors, Sainte-Hélène, c'est une toute petite île au milieu de l'Atlantique Sud, c'est à peu près à 3300 km des côtes d'Amérique du Sud et à 1850 km des côtes africaines. Sainte-Hélène, à l'époque, ça n'appartient pas aux Anglais. Ça appartient à la Compagnie des Indes. Alors pourquoi ? Parce qu'à Sainte-Hélène, il y a toujours beaucoup de monde. Et le monde, c'est quoi ? Ce sont les bateaux. Parce que quand vous quittez l'Europe pour aller en Inde, il faut s'arrêter et il faut faire le plein de nourriture, d'eau, etc. On appelle Sainte-Hélène, à l'époque, l'auberge de l'océan. Donc les Anglais vont déporter Napoléon à Sainte-Hélène parce qu'ils veulent l'avoir très très loin de l'Europe. Parce qu'ils sont très inquiets. On l'avait mis déjà à l'île d'Elbe, l'île d'Elbe c'est tout près de l'Europe, on voit l'Italie de l'île d'Elbe, et il est revenu à Paris, il a repris le pouvoir, etc. Après Waterloo, on se dit, il faut vraiment l'emmener le plus loin possible, parce que les Anglais en ont peur.
Et pour pas qu'ils reviennent.
En ont peur, exactement. Donc voilà pourquoi les Anglais ont choisi Sainte-Hélène.
Alors vous dites parce que c'est loin, ça on comprend bien, Jean-François Coulon-Desarts, mais alors pourquoi fallait-il du monde ?
Il y avait beaucoup de monde parce que tous les bateaux qui partaient d'Europe, je vous l'ai dit, s'arrêtaient à Sainte-Hélène. Alors après, Sainte-Hélène est tombée en désuétude avec l'ouverture du canal de Suez. Les bateaux ne passent plus par là, ne traversent plus, ne longent plus toute la côte africaine, le Cap, pour remonter après vers l'Asie. Ils passent directement par le canal de Suez. Donc Sainte-Hélène est tombée en désuétude. Mais à l'époque, il n'y avait que ça. Donc, il y avait tout le temps énormément de bateaux à Sainte-Hélène. Et Napoléon était surveillé par 2000 soldats à peu près.
2000 soldats ?
2000 soldats. Sur une île qu'il y a, il faut bien se rendre compte, Sainte-Hélène, c'est grand comme Paris intramuros. C'est tout petit, Sainte-Hélène. Et c'est une sorte de bastille des mers. Il y a une plage, une petite plage. Il n'y a même pas de port. Il n'y a toujours pas de port, d'ailleurs. Même si maintenant, il y a un aéroport. Mais c'est tout petit. Et il a été entièrement gardé. Et les Anglais ont fini par le tuer, quoi. À petit feu. Je voudrais préciser une chose. Ce qui est amusant à Sainte-Hélène, c'est que Longwood, c'est là où Napoléon résidait pendant plus de 5 ans. Les Briards, c'est une maison où il a passé 3 mois en attendant que Longwood, sa maison-prison, soit prête. Et la vallée de la tombe sont français. C'est Napoléon III qui les a achetés à la reine Victoria. Alors c'est le seul endroit à Sainte-Hélène où on peut avoir un pied en France, un pied en Angleterre.
Ah, je ne le savais pas. Jean-François Coulon-Desarts a donc écrit avec David Chantran aux éditions du Rocher « Napoléon, les derniers témoins racontent ». En fait, c'est pas à eux qui l'ont écrit, puisque ce sont les derniers témoins. Mais ce livre est très amusant. De l'histoire toujours, mais plus récente, avec l'historien Antoine Pro. Such a shame.
change, a feeling that we share. It's a shame.
Les Britanniques, Talk Talk, j'adore cette chanson, Such a Shame. Vous écoutez Les Petits Bateaux sur France Inter. Je vous ai annoncé Antoine Pro, son dernier livre est édité chez Duno, Petite Histoire de la France.
Bonjour, je m'appelle Eve, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi les vacances sont à la fin de l'année scolaire. Au revoir, merci de me répondre.
Oh, mon chaton, tu penses déjà aux vacances, t'as raison, faut y croire. C'est l'historien Antoine Pro qui va te répondre.
Oui, Ève, la question que tu poses en réalité, c'est pourquoi l'année est-elle divisée pour les enfants en deux parties, une partie pendant laquelle ils vont en classe et une partie pendant laquelle ils vont en vacances.
C'est vrai.
Alors, au début, je parle de l'école primaire, hein, celle dans laquelle tu es, il n'y a pas de vacances.
Ah bon ?
Parce qu'on est à la campagne. Et à la campagne, ce qui compte, c'est d'aider papa et maman à faire marcher la ferme, à garder les chèvres, les moutons, les vaches, à aider aux moissons, aux regains, au foin. Et donc, il faut aller chercher l'eau à la source ou à la fontaine pour faire boire les animaux et pour soi, et pour faire sa toilette aussi si on veut la faire. Il faut aller chercher le bois pour se chauffer. Enfin, il faut tout faire et on vit dans des conditions très dures. Donc, on a besoin du travail des enfants. Donc, les parents n'envoient pas les enfants à l'école. Donc, quand ils vont commencer à les envoyer à l'école, c'est au moment où il y a moins de travail à la maison. C'est en hiver, parce qu'en hiver, les vaches, elles sont plus au pré, il n'y a plus besoin de les garder, elles sont à l'étable. Et il suffit de fermer la porte de l'étable, elles s'en iront pas. Donc, les enfants ne sont plus aussi nécessaires. Et donc, dans les écoles du milieu du 19e siècle, donc ça fait pas tout à fait 200 ans, les enfants arrivent à l'école, je dirais à la Toussaint, ils arrivent à l'école quand les vaches rentrent à l'étable. C'est simple, les vaches rentrent à l'étable, les enfants rentrent à l'école. Et puis, quand les vaches ressortent de l'étable, quand les travaux des champs deviennent exigeants, les enfants quittent l'école. Et le grand problème de l'école, ça va être d'avoir une fréquentation plus régulière et d'étendre cette marge de fréquentation. Donc, l'école, tu vois, elle est vide en été, parce qu'en été, les parents ont besoin que leurs enfants les aident. Et alors, l'école va essayer de gagner le plus possible. Et c'est pour ça qu'on va rendre l'école obligatoire, qu'on va insister auprès des parents, mais comment ? On est au mois de mai, vous nous avez déjà retiré votre enfant. Mais la fréquentation scolaire était tellement épisodique qu'on payait l'école, parce qu'on payait l'école jusqu'en 1880, bon, pas tout à fait, ça devient gratuit progressivement, mais au milieu du 19e siècle, on payait l'école au mois.
Ah oui.
Un franc pour ceux qui apprennent à lire, 1,50 francs pour ceux qui apprennent à écrire et 2 francs pour ceux qui apprennent à compter. Mais c'est pour un mois.
Mais ils n'avaient pas tous le même programme. Il y avait celui qui venait que apprendre à lire et l'autre qui apprenait tout, lire,
écrire,
compter.
Oui, à l'époque, on n'apprenait pas à lire et à écrire en même temps. La difficulté de l'école primaire à l'époque, c'est que comme les enfants venaient une fois que les parents les avaient lâchés, ils n'arrivaient pas tous à l'école ensemble. Donc, ils ne commençaient pas à apprendre à lire tous au même moment. Donc, vous vous trouviez avec un enfant qui arrivait 15 jours après que vous aviez commencé à apprendre à lire à ses camarades d'âge. Et puis, 8 jours après, il y en avait encore un autre qui arrivait.
Le maître, il devait être fort quand même.
Eh bien, le maître, il avait développé, oui, un savoir-faire tout à fait remarquable. Mais les résultats de l'école n'étaient pas non plus aussi excellents qu'on le dit. On a un mythe de l'école républicaine qui était une grande école où tout le monde savait lire et écrire. Oui, à 10 ans, à 11 ans, mais à 7 ans, non, tout le monde ne savait pas lire et écrire.
Ah, c'est pas mal hein, d'entendre ça, c'est pas, comme quoi ce n'était pas toujours mieux avant, même de la part d'un historien. À propos de vacances, la semaine prochaine et la suivante, vous ne pourrez pas entendre les petits bateaux en direct, comme aujourd'hui par exemple. L'antenne sera consacrée à la soirée électorale, mais vous pourrez nous retrouver sur franceinter.fr, en podcast ou tout simplement à la réécoute. L'émission sera aussi bien que d'habitude avec par exemple la question de Morgane à Sabrina Krief. Y a-t-il une autre espèce que l'humain qui fait la cuisine ? Pour les vacances, toujours, si vous lisiez un livre qui ressemble au petit bateau, il arrive à rendre compréhensible des choses qui sont assez subtiles, des choses de la vie, de notre vie. Métamorphose ou le courage d'être soi est écrit par Anne-Cécile Hartmann. Ce n'est ni Bouddha, ni Freud, ni Jésus, ni Socrate, mais une Canadienne du 21e siècle. Elle a eu son lot de soucis, peut-être de soucis qui ressemblent aux nôtres. Elle ne s'étend pas beaucoup dessus. On comprend juste qu'elle a souffert, et qu'elle est toujours en selle, et même confortablement, au point qu'elle peut passer des obstacles et s'offrir des bons galops. Ce livre a été écrit à la première personne, il fourmille de petites et grandes idées, toujours bonnes. Et même plus, il donne le moral et du courage. Et si suivant notre avancement personnel, il peut enfoncer une ou deux portes ouvertes, où est le problème ? J'aime assez qu'on me tienne la porte, ça permet une circulation plus fluide. Métamorphose est aux éditions du CRAM. Podcaster, mes amis, podcaster ces petits bateaux ou réécouter tout simplement ce numéro par franceinter.fr. Réalisation Marjorie Devoucou et Eliane Gérard, programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, prise de son Henri Bérec, animation Noël Bréham. À suivre, Jérôme Garcin et Un masque et la plume consacrés ce soir au cinéma.